Toutes les semaines, je t'apporte des trucs et astuces pour t'aider à booster ton français. Depuis le mois de septembre 2022, j'invite aussi des personnes inspirantes, natives et non natives, qui ont un lien de près ou de loin avec la langue française. J'adore ces interviews car égoïstement, moi aussi, j'apprends plein de choses et je termine toujours super inspirée et motivée. Je n'ai donc pas l'intention de m'arrêter là et j'ai une très longue liste de personnes que j'aimerais inviter dans le podcast et que j'aimerais que tu découvres. Et c'est maintenant que j'ai besoin de ton aide. Certains invités de ma liste sont un peu inatteignables et je suis une grande rêveuse et j'ai toujours espoir. Le mot « impossible » ne fait pas partie de mon vocabulaire. Plus ça a l'air impossible, plus j'adore. Alors, afin de pouvoir approcher ces personnes un peu inatteignables et un peu VIP, j'ai besoin de beaucoup plus de visibilité et là, c'est à toi de jouer. Si tu aimes le podcast Le Français avec Yasmine et que tu apprends des choses chaque semaine grâce à ce contenu et que toi aussi tu as envie d'être inspiré par des invités plus, j'ai besoin que tu laisses 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Plus le podcast a des étoiles, plus il sera visible, plus il sera téléchargé et plus j'aurai la chance d'inviter encore plus de personnes inspirantes et le tout encore et toujours 100% en français. J'ai quelques invités de rêve en tête, dont un, allez, je le partage avec toi, mais ça doit rester absolument entre toi et moi. Je rêve d'inviter un jour Bradley Cooper, je le prononce à la française, Bradley Cooper, l'acteur américain, il parle français et je rêverais de savoir comment il a appris le français et s'il continue de pratiquer. Alors aide-moi à inviter Bradley Cooper dans ce podcast en laissant 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Merci, merci, merci. Bienvenue sur le podcast Le Français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le Français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, c'est une interview et je reçois Rachel Calvo, photographe basée à Paris, d'origine australienne. Salut Rachel.
Bonjour Yasmine.
Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invitée. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, je m'appelle Rachel, je suis australienne et j'habite à Paris depuis 2004. Je suis photographe et je suis maman.
Excellent. Donc, le français, ce n'est pas ta langue maternelle, c'est ta deuxième langue.
C'est vrai.
À partir de quel âge as-tu commencé à apprendre le français?
J'ai commencé sérieusement quand je me suis installée à Paris et ça fait... J'avais 30 ans. J'ai commencé... avec l'école, une grande école, et j'ai continué des cours là pendant 6 mois. Je pense que j'ai atteint niveau A2, et puis j'ai arrêté pour trop longtemps.
T'as arrêté, et puis à quel moment tu as décidé de recommencer?
J'ai décidé de recommencer parce que je voulais faire plus de clients en français. J'étais en train de lancer mon business photographie. Et bien sûr, je voulais faire des photos des Françaises. Et j'ai, par hasard, j'ai trouvé toi.
Wouh!
Ouais. de la part d'une... groupe de femmes networking group pour les femmes. Et je me suis inscrite dans ton cours... Non, on a commencé les face-à-face.
Ouais, cours particuliers.
Les cours particuliers. Mm-hmm. C'était génial parce que j'avais beaucoup de questions autour du vocabulaire, photographie et comment faire les consultations.
Mm-hmm.
En français, pour expliquer comment les photos, les séances de photos fonctionnent et tout ça. Et puis j'ai fait un cours intensif avec un groupe.
Mm-hmm.
C'était génial aussi. J'ai adoré rencontrer les femmes au même niveau que moi. Je pense que j'ai fait plusieurs de cours intensifs.
Je pense qu'il y a eu les cours intensifs pendant le confinement qu'on a fait ensemble.
Avant le confinement, on a fait, deux cours intensifs.
En personne.
En personne.
Ah oui, oui, je me souviens. Mon Dieu, quelle mémoire.
Oui, et puis pendant le confinement sur Zoom.
Ouais. Oui, 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 c'est vrai. Il y a eu plusieurs cours intensifs en personne et puis après, on l'a fait en ligne. Et puis après les confinements aussi, on a continué ensemble.
Oui.
On a passé beaucoup d'heures ensemble à travailler ton français. Quelles sont, selon toi, les plus grandes difficultés quand tu apprends le français et que tu n'as pas appris à l'école? Par exemple, j'imagine qu'en Australie, tu n'avais pas de deuxième langue à l'école quand tu étais plus jeune.
On fait 6 semaines de quelques langues.
Ah, ok.
Par exemple, l'italienne, français, on a fait indonésien.
Ok. Mm-hmm.
Mais oui, c'est vrai, en Australie, on se demande pourquoi on apprend des langues étrangères.
Mm-hmm.
Pour moi, c'était quelque chose très inutile.
Mm-hmm.
La difficulté pour moi, c'est plutôt de trouver le temps.
Mm-hmm.
Comme je suis maman et je travaille en plein temps, tout en anglais. Je parle avec mes enfants en anglais parce que je veux qu'ils parlent couramment.
Mm-hmm.
Tous mes clientes sont anglais aussi. Anglaise. Oui, plutôt anglaise. Plutôt les femmes. But, excusez-moi. oui, c'est de trouver le temps. Franchement, je pense qu'il y a... Il faut... investir le temps et pas que pour lire et faire les grammaires et tout ça, c'est de trouver les gens immersez-vous.
Mm-hmm.
On est immerse-toi.
Être en immersion.
Oui, mm-hmm. Avec les gens qui parlent. Même à l'extérieur de la maison.
Ouais, trouver des personnes avec qui parler.
Oui.
Régulièrement.
Oui, régulièrement, c'est le plus important et le plus difficile pour moi.
Mais c'est une difficulté que beaucoup de personnes rencontrent, même s'ils habitent à Paris. Par exemple, s'ils sont en couple avec un francophone, ils veulent que les enfants parlent les deux langues. Donc, j'imagine que tes enfants sont bilingues.
Oui.
Bah,
oui.
Ça, c'est génial.
Le petit, il fait les mélanges toujours, mais... Il va arriver.
Et après, une fois que tu travailles uniquement en anglais ou surtout en anglais, bah forcément, tu es dans une bulle dans ta langue. Donc, même si tu habites à Paris, tu parles beaucoup anglais. Après, il y a aussi évidemment plein de solutions, mais il faut trouver le temps. Et puis, quand on est maman et qu'on a un business.
Oui, pas vraiment le choix.
Du coup, le temps pour pratiquer, c'est ce qui est le plus compliqué pour toi, mais j'imagine que tu restes quand même connecté avec la langue française. Est-ce que tu as des ressources que tu utilises quand tu ne vas pas à un cours, par exemple, ou un groupe de conversation? Comment tu fais pour garder un pied dans la langue?
Ok. À chaque matin, lorsque je suis en train de déjeuner, je regarde le... en ce moment, il s'appelle Face à Face. C'est l'entretien avec un journaliste, une journaliste, Apolline, et il reçoit les politiciens, les grands hommes d'affaires, comme par exemple Monsieur Leclerc. Et, oui, c'est très intéressant. Il Elle pose beaucoup de questions. Pour moi, c'est facile à suivre parce qu'ils parlent très, très bien. Ils articulent, ils parlent doucement. Et pour moi, c'est facile à comprendre. Mais je regarde aussi les films. Si c'est un film où il utilise beaucoup de slang, il faut que je mette les sous-titres. Quoi d'autre? Les podcasts, bien sûr. Mm-hmm. Les podcasts avec Yasmine, c'est génial. Quoi d'autre? Le RFI podcast.
Oui.
Mm-hmm. Et quelques autres.
Ouais, c'est bien, tu restes quand même à chaque fois connecté avec la langue, même quand tu ne trouves pas de temps.
Oui.
Mmh, le français est toujours...
C'est toujours autour de moi.
Mmh.
Parce que mon mari parle français avec les enfants et parfois je suis dans la conversation en français. Mais oui, c'est je comprends... je pense que je comprends 90%. Il y a des fois des topics... qui ne sont pas vraiment dans mon monde.
Mm-hmm.
Par exemple, l'autre jour où j'ai appliqué pour la domiciliation, il y avait beaucoup de contrats et ce n'est pas mon truc du tout.
Ah oui, le français juridique.
Mm.
Bah, le français juridique, c'est aussi difficile pour les francophones natifs. Oh mon Dieu, c'est hyper indigeste. C'est comme les lettres administratives que tu peux recevoir des URSSAF ou des impôts en France. Mon Dieu, ils utilisent un vocabulaire juste pour compliquer les choses.
Ok.
Oui, okay. Oui. Donc, oui, parfois, il y a des lettres, je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire dans cette lettre? J'ai pas compris. Donc, oui, c'est normal. Français juridique, c'est vraiment très indigeste.
Mm.
Et tu as réussi tout en français? Pour la domiciliation?
Ah oui, j'arrive, mais j'ai dû... mon mari a lié tous les contrats pour moi.
Vérifier. Pour vérifier. Mm. Mm-hmm. À partir de quel moment tu as compris que tu parlais français et que tu te sentais francophone et que tu as eu un déclic, tu as dit « Ah, en fait, oui, je comprends, je peux parler la langue.
» je pense que c'est après... après le premier, peut-être après 2 ans, 3 ans, quand tout ce que j'ai appris dans les premiers 6 mois avec l'école, tu es devenu un peu fluide pour moi. C'était comme j'ai maîtrisé tout ce que j'ai appris. Malheureusement, je l'ai laissé tomber trop longtemps, je pense. Parce que 10 ans, c'est trop.
Tu as fait une pause de 10 ans?
Je pense que c'était 10 ans. Mm-hmm. Le temps passe trop vite.
Oh, surtout à Paris.
Oui, mais à cette époque-là, je suis allée à Londres tous les 2-3 mois. Et oui, j'étais vraiment dans une boule anglais même dans ma vie.
Après, la difficulté aussi, c'est que quand tu voyages beaucoup, par exemple, en tout cas à l'époque, tu voyageais beaucoup à Londres, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube. Donc, il n'y avait que les vieilles ressources, les CD pour apprendre. Donc, évidemment, c'était pas... C'était moins accessible.
Oui, oui.
S'il y a des petits bruits, je tiens à m'excuser, c'est qu'on est chez moi, dans mon salon, et il y a mes chats qui veulent absolument participer à l'interview.
Même.
Voilà, donc là, il y en a une sur les genoux de Rachel, elle est trop mignonne. Donc ça, évidemment, on ne va pas couper. ça reste, voilà, ça fait partie des joies du direct et des enregistrements. Donc, tu as fait une pause de 10 ans, parce que quand je t'ai rencontrée pour les cours particuliers, tu avais déjà un bon niveau. Hein.
Ah, merci.
Oui, je pense que tu avais déjà un niveau B1 bien confirmé, je pense. Okay. Mm-hmm.
Oui, mais j'ai appris un peu avec mon fils.
Ah bah oui, forcément.
Ouais, j'ai lu beaucoup de livres d'enfants et pour moi, c'était bien pour reconnaître la conjugation, le passé composé, l'imparfait et tout ça. Du coup, j'ai continué à apprendre quand même, même si ce n'était pas vraiment les cours, les vrais cours de français.
Oui, bah c'est bien parce qu'en fait, y a beaucoup de personnes qui pensent que si elles arrêtent les cours, elles arrêtent totalement de parler français. Mais en fait, tu continues. Il y a plein de manières de continuer à pratiquer le français. Donc, les films, lire les livres pour enfants avec tes enfants, écouter tes enfants parler français. Tout ça, c'est des manières différentes de continuer à pratiquer le français. Il y a aussi, j'imagine, les dessins animés.
Oui. Ah oui, tout à fait.
Avec les chansons et tout ça. Donc, tu vois, t'as pas, en fait, même si t'as pas participé vraiment à un cours physique, t'as quand même continué à pratiquer ton français. Est-ce que tu as déjà travaillé en français?
Oui, j'ai eu quelques clientes françaises pour les portraits, plutôt les portraits corporate. Mm-hmm. Une dame super, super gentille, elle me trouvait sur Google. Et elle a tombé amoureuse de mes photos.
Oh.
Et elle, même, j'ai expliqué, elle m'a appelé, j'ai lui expliqué que le français n'est pas ma première langue. Bah, c'était évident. Mais elle a insisté qu'on fasse les photos ensemble.
Joli subjonctif.
Merci. J'aime bien le subjonctif.
Oh, wow!
Oui, c'était une séance réussie. Merci.
Wouh!
Mais elle était patiente aussi. Comme ma belle-mère, elle est patiente avec moi.
La belle-mère, ça c'est aussi c'est un autre sujet.
Oui.
Est-ce que tu as une anecdote rigolote avec la langue française? Parce que forcément, quand on apprend une langue étrangère, il y a toujours un moment où il y a un événement qui nous marque et qui nous fait rire. Après, évidemment, sur le moment même, parfois c'est un peu moins drôle. Moi, j'en ai plein hein, avec l'espagnol, avec le portugais, j'ai déjà dit des choses. D'ailleurs, en portugais, il y a un mot que je ne prononce pas, c'est le mot pain. Parce que le mot pain, c'est pau, non, paon. Pão, quelque chose comme ça. Et l'autre, qui est très proche, je pense que c'est pau, et ça veut dire pénis. Je n'arrive pas à dissocier et à bien prononcer les deux, donc je n'utilise pas le mot pain. Donc quand je vais au Brésil, je ne mange pas de pain. J'évite totalement, parce que je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dit, voilà, l'autre, donc je voulais dire pain, et en fait, j'étais vraiment en train de dire pénis, et la personne en face de moi... Elle m'a regardée, j'ai dit « Ah mon Dieu, c'est pas ça ?» Il m'a dit « Non, mais tu dois absolument jamais prononcer de cette manière. » Et j'ai dit « Ok, c'est bon, je ne mangerai jamais de pain au Brésil. » Donc pour mes amis portugais, voilà, désolé, c'est un mot que je continuerai à prononcer en français. « Você tem pain ?» et pas l'autre, parce que voilà, on tombe sur des anecdotes incroyables. Est-ce que toi, tu as des anecdotes à partager
Oui. Je pense le plus récent, c'était avec toi. j'étais en train d'expliquer à toi et ton copain que l'histoire d'Elizabeth Bathory, qui est le premier tueuse en série.
La première tueuse en série, féminin.
OK. Mm-hmm. Well, on dirait que les premières... Mais je voulais expliquer qu'elle se baignait, dans le sein des vierges.
Vierge, parfait.
Mais j'ai dit de verge.
verge qui est le mot scientifique utilisé pour parler du pénis.
Des pénis.
Donc on a toutes des histoires comme ça, verge et vierge. Donc les amis, il faut vraiment éviter la prononciation du mot. Enfin, ça dépend, si vous allez chez le médecin, évidemment, que vous êtes un homme et qu'il y a un problème, il faut pouvoir prononcer le mot correctement. Donc verge, c'est le pénis, et vierge, c'est une personne qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Et si vous avez la transcription, ça sera bien écrit. N'hésitez pas à pratiquer la prononciation de ces deux mots pour éviter toute situation un peu rigolote ou cocasse. Comment tu fais, Rachel, pour rester motivée avec la langue française? Parce que j'imagine que c'est comme pour tout le monde. Moi, il y a des jours, quand j'apprends une langue, il y a des jours où j'ai pas envie. Ça m'embête, ça me fait chier, je me dis j'avance pas, j'ai l'impression de pas parler, d'aller vraiment en arrière. Donc, avec la langue française, surtout que les Français à Paris, parfois, ils sont très impatients. Comment tu fais pour rester motivé à continuer à pratiquer ton français?
De voir les gens qui parlent, les gens qui ne sont pas français, qui parlent bien en français. Bah, c'est très motivant pour moi. Ils réussissent et ça me donne de l'espoir.
Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes le plus dans la langue française?
Ce que je déteste le plus... la prononciation, c'est très important parce que... Même si on comme le vierge et le verge, si on... Non, c'est pas un bon exemple. Mais même si on dit quelque chose qui est correct, mais on ne le prononce pas correctement, les gens, les Français ne comprennent pas. Même aussi pour les masculins, féminins, féminines.
Masculin, féminin.
Mm-hmm. Si on utilise le masculin, mais c'est un objet féminin, il ne comprend pas.
Mm-hmm. En fait, en France, surtout, c'est différent de la Belgique, parce qu'en France, les Français ne sont pas éduqués à entendre du broken French.
Uh-huh.
Et en Belgique, oui, parce que vu qu'il y a la partie flamande, les Belges francophones interagissent depuis le plus jeune âge avec des personnes flamandes qui parlent un français qui n'est pas correct ou qui n'est pas parfait, et ils sont hyper tolérants. En France, ils ne sont pas éduqués à entendre des accents déjà, et ensuite un français qui n'est pas correct, sauf les familles où il y a plusieurs nationalités, plusieurs cultures et plusieurs langues. Mais une famille francophone, si tu prononces pas parfaitement, ça peut un peu être compliqué, dire « Oh, je comprends pas.
Oui. »
Et même à Paris, ce qui est étonnant, et en fait, ils ne sont pas éduqués à comprendre, alors que quand tu vas à Londres ou tu vas aux États-Unis, même en Espagne, ils sont beaucoup, beaucoup plus tolérants quand ils entendent un accent ou un truc qui n'est pas correct, ils vont continuer. Ouais. Il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là en France. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans la langue française, à part le subjonctif?
OK. Je le trouve très joli. J'adore le nature poétique.
Mm-hmm.
Quand on lit en traduction en anglais de un passage français, il manque quelque chose. L'anglais manque quelque chose. Tu me comprends?
Oui. Tu trouves que la langue française est plus poétique, plus riche?
Oui.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup lire en anglais, mais j'avoue qu'il y a beaucoup d'auteurs francophones, quand je lis en français, je me dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique! Oui. Et je me dis, comment tu peux avoir une mélodie aussi jolie? Après, voilà, je triche parce que je suis déjà passionnée de la langue française à la base, et je m'émerveille. Il y a des auteurs, je me dis, qu'est-ce que c'est joli! Et je pense que j'ai jamais eu un émerveillement avec une autre langue. En anglais, je ne l'ai pas eu. Peut-être en espagnol. Si tu devais recommencer, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Recommencer à apprendre le français, évidemment.
Dès le début, je trouverais des autres jeunes qui... par exemple, un groupe qui parle français pour un échange de langue. Pour pratiquer plus.
Oui, avoir plus de personnes avec qui, des amis par exemple, qui apprennent aussi le français ou plus d'activités.
Oui, les Français qui veulent faire un échange en anglais. Parce que pour moi, quand ce qui me manque est l'habitude de parler français. Et quand je me trouve dans les situations avec les gens, je trouve que j'hésite beaucoup. Et pour le conquérir, c'est nécessaire de parler plus.
Oui. Pour parler français, il faut parler. C'est super important. J'entends souvent des personnes qui me disent « Oui, la grammaire, ça va. Je peux comprendre tout à la radio. Je peux comprendre à la télévision. » Mais pour parler, c'est compliqué. Je dis « Mais
oui, quand
combien de fois par semaine tu parles français ?» Il y a des personnes qui ne parlent pas français pendant des mois.
Oui.
Je dis « Non, pour parler français, il faut parler. C'est le plus compliqué. » Parce que dans notre tête, on parle toujours super bien.
Mmh, oui.
Donc le français dans ta tête, il est parfait. Mais après, c'est le français à l'oral, quand il sort de ta bouche, qui est différent. Et c'est le plus difficile à pratiquer, forcément. Mmh. Parce qu'il y a des sons qui sont différents. Il y a des mots qui sont dans d'autres places. La syntaxe est différente. Avant de te laisser partir, ma chère Rachel, est-ce que tu as un conseil à partager avec les personnes qui auraient envie de continuer à parler français ou qui ont envie de commencer à parler français?
Trouver un cours qui te convient.
Mm-hmm.
Les cours, on n'est pas des excuses maintenant parce qu'il y a des cours online.
Mm-hmm.
Et bien sûr, trouver des gens de parler avec.
Oui, clairement. Mm-hmm.
Oui.
Et trouver le cours, ça c'est aussi hyper important. On n'est pas tous faits pour les mêmes cours. Donc par exemple, un cours qui fonctionne pour toi ne va peut-être pas fonctionner pour moi en fonction de ma personnalité.
Oui.
Faut bien prendre en compte le fait d'être, si t'es introverti, extraverti, super timide, si t'aimes bien être avec les gens, si t'aimes pas être avec des gens, parfois aussi en fonction du travail, de ta vie. Y a des moments où c'est peut-être plus simple d'avoir un cours particulier parce que c'est beaucoup plus flexible. D'autres personnes qui ont besoin d'avoir des cours en groupe parce qu'ils ont besoin d'avoir un truc assez fixe et horaire fixe avec des personnes pour aussi communiquer avec d'autres gens.
Oui.
Donc tous les cours sont différents et il y a toujours un cours qui s'adapte à chaque personne et chaque personnalité. Rachel, pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi ou qui auraient envie de faire un super photoshoot à Paris, une séance photo, où est-ce qu'ils peuvent te contacter et te trouver?
Pourquoi pas Instagram? @rachel.calvo.portrait ou mon site internet rachelcalvophotographe.com. Oui, mais envoie-moi un message plutôt sur Instagram, je pense.
Ok, super. Donc voilà, la prochaine fois que vous passez à Paris, si vous voulez avoir un magnifique souvenir, n'hésitez pas à contacter Rachel. Les photos sont magnifiques. D'ailleurs, si vous connaissez mon site internet, il y a beaucoup de photos de Rachel qui sont dessus. Je pense que même sur la première page, c'est Rachel qui m'avait prise en photo. Donc n'hésitez pas, c'est un super bon souvenir, un beau cadeau et aussi une magnifique expérience. Merci beaucoup Rachel d'avoir accepté.
Merci à toi.
À bientôt.
Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!